Aujourd'hui, le message est surtout pour les nouveaux convertis, les nouveaux chrétiens. Et je prends comme verset principal, « Prenons soin les uns les autres pour nous encourager à aimer et à faire le bien. » Donc, je ne connais pas quelle traduction, c'est Hébreux chapitre 10, verset 24. « Prenons soin les uns les autres pour nous encourager à aimer et à faire le bien. » Ce n'est pas notre traduction habituelle. Mais chacun de nous a l'opportunité et le devoir d'encourager d'autres chrétiens. Et là, je le dis dans le sens le plus large. On a des rapports, des relations avec les autres chrétiens. En tout cas, ceci veut dire donner de votre temps. Il faut que vous donniez de votre temps aux autres chrétiens. Par exemple, prier, de l'amitié, de votre exemple, faire des visites, donner un petit mot, envoyer un texto, envoyer une lettre, faire un appel téléphonique, lire la Bible avec un autre chrétien, envoyer des cartes postales. Envoyer des cartes postales, etc. Il y a plein de moyens que vous pouvez encourager les autres croyants. Et dans Actes chapitre 2, donc on va tourner dans Actes chapitre 2. Et ça doit être vers la page 1088. La page 1088, plus ou moins. Actes chapitre 2. À partir du verset 44, on a le premier exemple des premiers chrétiens, comment ils passaient du temps et passaient du temps ensemble et partageaient leur vie. Alors, je vais commencer avec le verset 42. Actes chapitre 2, verset 42. Ils, donc c'est tous les chrétiens, persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et des miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu, c'est-à-dire ils étaient à Jérusalem. Dans le même lieu, et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils en partageaient le produit entre tous, selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et toute simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple, c'est-à-dire le peuple juif. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Donc, on voit que les premiers chrétiens passaient du temps ensemble. Ils priaient ensemble, ils étaient assidus, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Bon, pour nous, c'est le Nouveau Testament. Et donc, c'est comme cela qu'ils s'occupaient. Donc, on répète le verset, « Prenons soin les uns les autres pour nous encourager à aimer et à faire le bien. » Et c'est ça que les premiers chrétiens faisaient les uns envers les autres. Ils s'entrecourageaient à s'aimer et ils faisaient le bien les uns envers les autres. Donc ça, c'est général. Mais là, je voudrais focaliser quand même sur ce que nous pouvons faire ou devons faire pour aider les nouveaux chrétiens. Donc, je reprends le verset, mais j'ajoute un petit peu. Prenons soin. Et dans notre traduction, veillons les uns sur les autres, pour nous encourager, pour nous exhorter, pour nous conseiller, pour nous exciter à aimer et à faire le bien. Jamais Dieu nous enseigne à haïr les uns et les autres. Jamais Dieu nous encourage à ne pas faire le bien ou à faire le mal envers les autres. Non, c'est le diable qui fait ça. Dieu veut qu'on s'aime et qu'on fasse le bien les uns envers les autres. Donc, on va regarder dans Colossiens. Colossiens chapitre 3, Donc pour moi, c'est la page 1185. Colossiens chapitre 3. Et c'est la page 1185. Nous allons lire petit à petit à travers ce chapitre. Et c'est intéressant, j'ai pas vu comme ça, mais les éditeurs ont mis un petit titre de paragraphe ou de chapitre, la vie nouvelle en Christ. Donc voilà, les nouveaux convertis, ils ont une vie nouvelle en Christ, et cette information les concerne. Ça nous concerne tous et toutes. Mais quand il y a un nouveau converti, il faut lui donner quelques bases pour qu'il puisse marcher dans la voie du Seigneur. Donc, Colossiens chapitre 3, on va lire versets 1 à 4. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Attachez-vous aux choses d'en haut, et non à celles qui sont sur la terre, car vous êtes mortes, et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Donc ici, on voit globalement que nous devons aider le nouveau chrétien à se rendre compte de ce qui s'est passé en acceptant Jésus-Christ comme son Seigneur. Premièrement, on a cette vie, il dit, vous êtes ressuscités avec Christ. Donc, il y a une nouvelle vie, la vie de résurrection et les changements qui entrent dans la vie d'un nouveau chrétien. Et gardez Colossiens chapitre 3 parce qu'on va passer beaucoup de temps là. Mais je vais simplement regarder dans Éphésiens, juste quelques pages auparavant, chapitre 2, c'est un paragraphe parallèle. Éphésiens chapitre 2. Verset 13, « Mais maintenant en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés, donc rapprochés de Dieu, rapprochés les uns des autres, par le sang de Christ. » Et verset 18, Éphésiens chapitre 2, verset 18, « Car par lui, les uns et les autres, nous avons accès auprès du Père dans un même esprit. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. En lui, tout l'édifice bien coordonné, s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Donc, tout ça parle de cette nouvelle vie. Avant, une personne était morte dans ses péchés. Il n'avait aucune vie spirituelle. Il avait une vie spirituelle morte. Il était du monde. Il était dans le domaine du diable et de ceux qui se perdent. Mais quand on a cru en Jésus-Christ, Dieu nous a communiqué la vie de Dieu. Le Saint-Esprit est entré en nous. Nous avons eu déjà cette, je vais dire, vie de résurrection. Et ça se passe pourquoi? Parce qu'il y a l'amour de Dieu déjà pour faire le nécessaire de l'Évangile, pour nous sauver. Et la grâce de Dieu qui permet que moi, je puisse être appelé à l'Évangile, que je puisse recevoir les bénéfices de l'Évangile. Et il y a la communion avec Dieu du fait que maintenant on est en Christ, on partage toutes ces bénédictions spirituelles entre nous et avec Dieu. Donc la première chose, c'était d'aider le nouveau converti, le nouveau chrétien, à comprendre qu'il est entré dans une nouvelle vie entièrement. Okay, on a déjà parlé un peu la dernière semaine. Aussi, il faut aider le nouveau chrétien à fonder l'assurance de son salut, non pas sur ses émotions ou sur les choses externes, mais à fonder l'assurance de son salut sur la base de la parole de Dieu, l'œuvre du Christ et le témoignage du Saint-Esprit. L'œuvre de Dieu, la parole de Dieu. Donc, je vais sauter un petit peu à droite et à gauche, mais vous n'êtes pas obligé de le faire. On lit dans Romains chapitre 12, versets 1 et 2, que j'ai lu, je pense, la semaine dernière aussi. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent. Il y a une différence maintenant. Maintenant qu'on est converti à Jésus-Christ. Mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Donc voilà, il faut changer. J'ai appris des choses. Eh bien, ces choses n'étaient pas justes, n'étaient pas vraies. Il faut changer ces choses afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Donc la parole de Dieu, c'est le moyen que Dieu utilise pour faire tous ces changements dans notre pensée. Aussi dans Colossiens, toujours dans chapitre 3, versets 3 et 4, que nous avons lu tout à l'heure, « Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. » Tout votre passé, tous vos péchés, toutes les saletés et toutes ces choses-là sont cachées. Dieu ne les voit plus. Il vous voit comme une nouvelle création. Quand Christ, votre vie, paraîtra, donc c'est dans l'avenir, eh bien, il dit, alors, à ce moment-là, vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Ce n'est pas des choses qui concernent nos émotions, ce sont des vérités que le Saint-Esprit affirme concernant tout vrai croyant. Un croyant a toute sa passée cachée en Christ, lavée de tous ses péchés, il a le Saint-Esprit en lui, la vie de résurrection, et il a la certitude de l'avenir. Quand Christ apparaîtra, le croyant apparaîtra, paraîtra aussi avec lui. Et il dit dans la gloire, c'est où dans la gloire? La gloire céleste. Et puis, je voulais lire Romains chapitre 5 et verset 5. Et je vais aussi lire 1 Corinthiens chapitre 2, verset 12. Romains 5, 5, concernant le Saint-Esprit, « Or, l'espérance ne nous trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. » Donc, ce n'est pas une hypothèse, c'est une chose historique. Dieu nous a donné son Saint-Esprit au moment de se convertir à Jésus-Christ. Et dans 1 Corinthiens 2, 12, or, nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde. On l'avait déjà. On n'avait pas besoin de le recevoir. Mais nous avons reçu l'Esprit qui vient de Dieu afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Donc, c'est tout ça concerne cette nouvelle vie et l'assurance que Dieu nous a sauvés. Il y a d'autres versets qu'on pourrait chercher, mais on ne va pas passer plus de temps. Le point, c'est que l'assurance du salut ne vient pas de moi. Et ça ne vient pas des chrétiens qui nous entourent. L'assurance du salut vient de la parole de Dieu, vient de l'œuvre de Christ, vient du témoignage du Saint-Esprit. Elle est fondée, l'assurance est fondée dans la parole de Dieu. Et tout ceci revient à la question de votre confiance en Dieu. Dieu est-il vrai? Est-ce qu'il dit vrai? Pouvez-vous compter sur ce que Dieu a dit? Et quand vous trouvez que vous pouvez répondre oui, eh bien vous ne douterez plus de votre salut. Parce que c'est Dieu qui assure. Ce n'est pas le pasteur, ce n'est pas l'église, ce n'est pas les frères. C'est Dieu qui affirme le salut de celui qui se confie en Jésus-Christ. Alors, le prochain point est dans Colossiens chapitre 3. On va lire les versets 5 à 10. Faites donc mourir. Donc, maintenant qu'on est converti à Jésus-Christ, que notre vie passée est cachée en Christ, faites donc mourir. Vous êtes morte vis-à-vis de vos péchés. Maintenant que votre vie de tous les jours se conforme à ce que vous êtes devenu en Dieu. Faites donc mourir. On est dans Colossiens chapitre 3 et verset 5. Faites donc mourir ce qui, dans vos membres, est terrestre. La débauche, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité qui est une idolâtrie. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. C'est ainsi que vous marchiez autrefois lorsque vous viviez dans ces péchés. Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses, donc ces choses en plus, à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles équivoques qui pourraient sortir de votre bouche. Ne mentez pas, ne mentez plus les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres et ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Donc on commence avec le dernier verset. Étant qu'on est nouvelle création en Christ, il y a cet nouveau homme en nous et nous devons faire vivre cette nouvelle création. C'est une nouvelle création qui se renouvelle, donc l'intelligence et le mettre en pratique de notre vie, c'est une chose qui se renouvelle au fur et à mesure qu'on apprend de Dieu, qu'est-ce que Dieu veut de nous. Et ça se renouvelle selon l'image de celui qui l'a créé. On est créé en Jésus-Christ. Donc, celui qui nous a créé en Christ, c'est Dieu. Et ça se renouvelle d'après la vérité. Donc, toujours en faisant référence à la parole de Dieu. Donc, on se revêt de cette nouvelle personne. Et en même temps, on se dévestit de l'ancienne. Donc, les mots qui sont utilisés... je les cherche là, je les ai perdus. Ah oui, faites mourir, renoncer, dépouiller le vieil homme. Toutes ces choses veulent dire qu'il faut couper les ponts vers le passé, ce qui était du mal. Il faut détacher les ancres. Vous savez, hein, quand on est bien dans le bateau et on les jette une ancre à droite et une ancre à gauche pour être stable là-bas, il faut couper les ancres. Il ne faut plus être ancré dans le passé. Et on lit ça aussi, il ne faut pas changer de page, dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5 et verset 21. Je pense si je ne me trompe pas. Mais examinez toutes choses, oui c'est ça, mais examinez toutes choses. Un nouveau converti doit examiner sa vie, retenir ce qui est bon et abstenez-vous de toute espèce de mal. Donc, il faut avancer et il faut rejeter. Dans cette idée, donc, vous devez aider le nouveau chrétien à avoir une vie, donc, une vie chrétienne stable et équilibre, et surtout en entretenant un culte quotidien qui passe du temps dans la parole de Dieu, qui passe du temps dans la prière. Comme ça, il va savoir ce que Dieu veut pour sa vie, et va pouvoir couper les ponts, il va pouvoir construire sa nouvelle vie. Mais un problème qui arrive souvent, c'est que quand on a un nouveau converti qui commence à lire la parole, il va dévergonder dans ses pensées à droite et à gauche, il ne va pas trop bien comprendre. Donc, vous avez à lui aider à développer aussi une compréhension mature de la parole. Et à la fin, ça lui donnera une autonomie. Donc, il faut lui apprendre à bien interpréter et à appliquer la parole. Alors, vous savez de quoi je parle. Il y a beaucoup de nouveaux chrétiens qui prennent n'importe quel verset, arracher ça de son contexte, et puis ils vont appliquer dans n'importe quel sens que Dieu n'a jamais voulu. Hein? Donc, on va veiller que les nouveaux convertis ne font pas ça. Aussi, il faut encourager les nouveaux convertis à ne pas lire tout ce qui est disponible. Vous savez, avec l'Internet, il y a tout. Hein, je me souviens, quand j'étais à Paris, il y avait un frère dans l'église. Il lisait tous les documents des pères de l'église. Et les pères antinicéennes. Et les pères post-nicéennes. Et il y a plein de saletés dans cette littérature. Et je lui dis... J'ai pas le temps de lire tout ça avec vous pour que je puisse répondre à toutes vos questions. Pourquoi rabâcher les choses qui étaient mises dans la poubelle il y a 20 siècles? 20 et 15 siècles. Hein, donc, il ne faut pas tout lire, il ne faut pas tout écouter. La parole de Dieu est la nourriture solide qu'il nous faut. Donc, encouragez les nouveaux croyants à passer du temps dans la parole. Après, on est dans les versets 11 à 16. Colossiens chapitre 3, versets 11 à 16. Il n'y a ici ni grec, ni juif, ni circoncis, ni incirconcis, ni barbare, ni sainte, ni esclave, ni libre, mais Christ est tout et en tous. Donc, il parle là de l'unité que nous avons en Jésus. On est frères et sœurs en égalité devant Dieu. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous des sentiments de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres, et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Mais, par-dessous toutes ces choses, revêtez-vous de l'amour qui est le lien de la perfection. Et que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs et soyez reconnaissants. Que la parole de Christ demeure en vous dans toute sa richesse. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs en vertu de la grâce. Donc on voit ici qu'il faut aider le nouveau chrétien à devenir, on va dire, membre actif d'une église locale fidèle. Donc, ça va de soi qu'il faut que la personne se fasse immerger en tant que croyant. Et puis, à travers ce paragraphe, on a vu qu'il faut respecter l'unité du corps local. Il faut pardonner, vous avez bien lu. Pardonnez-vous les uns les autres comme Christ vous a pardonné. On n'a pas la place pour la rancune. Si on va garder l'unité, comment peut-être être rancuniers les uns envers les autres? Ça ne se fait pas. Il faut apprendre à pardonner et à entretenir la communion fraternelle. Dans 1 Jean, chapitre 3, juste la première phrase du verset. 1 Jean, chapitre 3, verset 14, la première partie. Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères. Bon, il a déjà dit. La vérité, c'est que nous sommes passés de la mort à la vie. C'est ça qu'on a lu dans Colossiens. Mais il y a en nous une confirmation de cette vérité. Nous savons, donc nous avons cette appréciation de notre salut, que nous sommes passés de la mort à la vie, parce que nous aimons les frères. Donc, à entretenir cette communion fraternelle et à contribuer à la vie de la communauté. Et je ne vais pas le relire, mais quand on a lu dans Actes chapitre 2, versets 44 à 47, on a bien vu, ils ont mangé ensemble. Ça veut dire qu'ils ont visité chez les uns et chez les autres. Ils ont passé du temps ensemble. Tout ça revient à respecter l'unité du corps, à pardonner, à entretenir la communion fraternelle et à contribuer à la vie des uns et des autres. Après, on va lire versets 17 et verset 23. Colossiens chapitre 3, versets 17 et verset 23. Et quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, en parole, même ce que vous dites, et aussi ce que vous faites. Et quoi que vous fassiez en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Et au verset 23, tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour des hommes. Donc on voit dans cette idée qu'on doit aider le nouveau chrétien à développer un sens de vocation. Vocation. Toute sa vie compte pour Dieu. Toute sa vie compte pour Dieu. On est appelé à être un menuisier chrétien, un évangéliste, un balayeur dans la rue. Toute ma vie est une vocation. Et on le voit même si vous lisez dans Colossiens chapitre 3 à partir du verset 18 jusqu'au chapitre 4 verset 1. Même la vie de famille, les affaires, le travail, tout est soumis à cette idée d'une vocation. Je vis devant Dieu. Verset 18. Femme, que chacune soit soumise à son mari comme il convient dans le Seigneur. Mari, que chacun aime sa femme et ne s'aigrisse pas contre elle. Enfant, obéissez en toutes choses à vos parents, car cela est agréable au Seigneur. Père, n'irritez pas vos enfants de peur qu'ils ne se découragent. Serviteurs, obéissez en toutes choses à vos maîtres selon la chair, non pas seulement sous leurs yeux comme pour plaire aux hommes, mais avec simplicité de cœur dans la crainte du Seigneur. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pas pour des hommes, sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense. Servez Christ le Seigneur, car celui qui agit injustement recevra selon son injustice et il n'y aura point de favoritisme. Il ne parle pas de salut dans ce verset-là. Il parle de ce qui se passe sur la terre. Maître, accordez à vos serviteurs ce qui est juste et équitable, sachant que vous aussi, vous avez un maître dans le ciel. Donc cette idée-là, c'est d'aider le nouveau chrétien à savoir qu'il va vivre sa vie devant Dieu. Tout ce qu'il fait, Dieu observe et apprécie ou n'apprécie pas tout ce que nous faisons. Que ce soit dans la vie privée, que ce soit dans la vie publique, que ce soit au travail, etc. OK? Et chapitre 3, verset 24, avec chapitre 4, verset 2 aussi. Donc, verset 24, je vais le retrouver là. Sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense, servez le Seigneur, servez Christ, le Seigneur. Et chapitre 4, verset 2, persévérez dans la prière, veillez-y avec action de grâce. Donc, l'idée là, c'est que vous devez aider le nouveau croyant à maintenir ou à entretenir son amour pour le Seigneur, à savoir comment aimer, comment faire le bien envers Dieu. Et le sens de ce mot « servir le Seigneur », le sens de cette idée-là est un service d'amour. On serve Dieu parce qu'on aime Dieu. Hein, vous savez, même sur les réglettes, je ne sais pas où j'ai mis les réglettes, hein? Aimer Dieu, aimer ton prochain, c'est les grands commandements. Et ça s'est revenu plusieurs fois ici dans le chapitre à aimer les frères. Mais maintenant, on voit dans le service de Dieu, on va aimer Dieu. Et finalement, dans le chapitre 4, versets 3 à 6, priez en même temps pour nous tous. Priez en même temps pour nous, afin que Dieu nous ouvre une porte pour la parole, en sorte que je puisse annoncer le mystère du Christ pour lequel je suis dans les chaînes, et le faire connaître comme je dois en parler. Conduisez-vous avec sagesse envers ceux du dehors et rachetez le temps. Que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. Donc, si vous réfléchissez un petit peu, vous verrez que ces versets sont dans le sujet de l'évangélisation. Paul est dans les chaînes, comme j'ai dit la semaine dernière, il va témoigner devant César et prie qu'il puisse ouvrir sa bouche comme il faut pour expliquer, il dit, le mystère du Christ, etc. Et puis il va plus loin, que chacun puisse savoir comment répondre dans chaque circonstance de la vie quand on vous pose la question « Pourquoi vous êtes chrétien ?» Eh bien, donc voilà, il faut aider le nouveau chrétien à partager sa foi en Christ. Donc, je reviens au verset du début. Prenons soin les uns les autres, donc pour le nouveau croyant, mais aussi les uns pour les autres, et nous aussi qui sommes les chrétiens de plus longue date. Prenons soin les uns les autres pour nous encourager à faire le bien. Et on m'a rappelé de ces cartes, il y a quelques cartes par là, je pense. Donc, si vous n'avez pas, vous pouvez prendre là ce qui est un bref résumé de ce que nous croyons, de ce que nous faisons. Je vais le lire pour terminer. C'est une bonne chose à se rappeler, à prendre ça donc aux nouveaux convertis, n'est-ce pas? Avec l'aide du Seigneur Jésus-Christ et grâce à son Saint-Esprit qui habite en moi, je me rappelle mon service en tant que croyant. Aimer les autres, garder ma langue, suivre les bons conseils des dirigeants de mon Église, prier quotidiennement, inviter les non-croyants aux réunions, être aimable, témoigner de ma foi en Christ, assister régulièrement au culte, soutenir l'Assemblée avec mes talents, mon temps et mes finances, et m'efforcer à avancer dans la piété et la connaissance de la foi. Donc, toutes ces choses, je vous ai partagées aujourd'hui dans le thème des quelques semaines passées, que qui nous sommes. Nous sommes une église biblique, baptiste, indépendant. On veut être soumis à la parole de Dieu. Pourquoi on est là? Parce qu'on croit en Jésus-Christ. Et on a manifesté cette foi en se faisant immerger dans l'eau. Maintenant, on va marcher ensemble. On va évangéliser en dehors. On va inviter les gens aux réunions, bien sûr, mais on va prendre les opportunités à parler de notre foi en Jésus-Christ. Et de temps en temps, les gens vont devenir des chrétiens. Et on ne va pas les abandonner, pas plus que Jésus nous a abandonnés. N'est-ce pas? Et on va donc les aider à faire les premiers pas du nouveau croyant en Jésus-Christ. Et là, j'ai approfondi un petit peu plus aujourd'hui ce thème-là. Et il faut vraiment prier parce que le Seigneur, je pense qu'il fait cette œuvre ici. Et il faut qu'on se prépare hein, pour pouvoir aider les uns et les autres et donner une bonne base aux nouvelles personnes qui vont se joindre à nous.